impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire,
dont nous amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
De voyage. Aujourd'hui, périples en Grèce.
Dans ce poème de 1911, Constantin Cavafy évoque Ulysse de retour vers son village natal après 20 ans d'itinérance, mais aussi tous les voyageurs sur cette terre. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. Ne crains ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni la colère de Neptune. Tu ne verras rien de pareil sur ta route, si tes pensées restent hautes, si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer que par des émotions sans bassesse, tu ne rencontreras ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni le farouche Neptune, si tu ne les portes pas en toi-même, si ton cœur ne les dresse pas devant toi. Souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d'été, où, avec quel délice, tu pénétreras dans les ports vus pour la première fois. Fais escale à des comptoirs phéniciens et acquiers de belles marchandises, nacre et corail, ambre et ébène, et mille sortes d'entêtants parfums. Acquiers le plus possible de ces entêtants parfums. Visite de nombreuses cités, instruis-toi avidement auprès de leurs sages. Garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit. Ton but final est d'y parvenir. Mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années et que tu abordes enfin dans ton île au jour de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'Ithaque t'enrichisse. Ithaque t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mise en route. Elle n'a plus rien d'autre à te donner.
Nous naviguions droit dans la passe, en nous lamentant. D'un côté se trouve Scylla, et de l'autre, la fameuse Charybde, engloutie avec un bruit terrible l'eau salée. Quand elle la vomit, toute la mer s'agite, bouillonne, comme l'eau d'un chaudron sur un grand feu. L'écume jaillit jusqu'en haut des écueils et retombe sur tous les deux. Puis, quand elle engloutit à nouveau l'eau salée, on la voit bouillonner tout entière en sa profondeur. Le rocher qui l'entoure mugit terriblement, et par-dessous paraît un fond de sable noirâtre. Mes compagnons, pris de terreur, devenaient blêmes. Nous regardions Charybde dans notre crainte de la mort. À ce moment, Scylla, dans le creux du vaisseau, emporta 6 de mes hommes, les meilleurs par la force de leurs bras. Comme je tournais les yeux vers mon vaisseau rapide et mes compagnons, je n'aperçus plus que leurs pieds et leurs mains enlevés en l'air. Ils criaient, m'appelant par mon nom, pour la dernière fois, dans l'angoisse de leur cœur. Quand, sur la saillie d'un roc, un pêcheur jette au bout de sa longue gaule l'appât trompeur aux petits poissons et lance dans la mer la corne d'un bœuf des champs, on le voit verser sur le sol sa prise palpitante. Eux palpitaient ainsi, enlevés contre les pierres, et Scylla, à la porte de son antre, les dévorait tout criant, tendant les bras vers moi, dans leur effroyable détresse. C'est bien le spectacle le plus pitoyable qu'aient vu mes yeux pendant ma pénible recherche des passes de la mer. Puis, quand nous eûmes échappé aux écueils, à la terrible Charybde, à Scylla, nous parvînmes aussitôt à l'île admirable du Dieu.
À Rhodes, André d'Hôtel. Dans la petite salle à manger rouge, le capitaine s'accoude devant son phonographe et joue pour lui seul des jazz. Le bateau s'endort sur une mer très renommée. D'autres paquebots aux lumières nombreuses s'éloignent vers Constantinople. Ce fut assez tard dans la matinée du lendemain que Patmos apparut aux femmes paisibles assises vers la proue. Des odeurs de cambouis s'exhalaient au grand soleil. Les opales, dans l'aube, étaient devenues bleues. Et sur les faibles monts de l'île au château blanc, construit avec de la lune d'après-midi, s'élevait. Il est bien possible que ce château soit un monastère dont l'ombre protège un fameux manuscrit. Le bateau erra le long des côtes. Il pénétra dans de petites baies charmantes, dont il fit bien inutilement le tour. Ainsi voguent, à la grâce de Dieu, les bateaux d'Orient qui n'atteignent jamais le port, qu'à l'heure marquée par le destin. Les femmes aux voiles très doux et bruns regardent sans les voir les pentes grises des collines, grises, lumineuses, stériles, solitaires, et elles ne s'étonnent pas de la pureté des eaux vertes et peu profondes qui baignent les grèves mignonnes, grandes comme des éventails de marquises. Les yeux de ces femmes expriment les pensées graves et enfantines d'un Orient ensommeillé. En ses yeux défilèrent lentement les crêtes éclairées de l'île, Patmos, aux broussailles incertaines, et le port s'entr'ouvrit enfin devant le bon petit navire.
Voyage à travers la lettre A de l'index du guide Évasion sur la Grèce. A comme Achille, Acrocorinthe, Aphissos, Agamemnon, Agria, Ajax, Actéon, Alepoori, Alexakis, Alexandre le Grand, Ali Pacha, Aliakmon, Alika, Alphée, Ambélakia, Amphipolis, Andirion, Andritsena, Andromaque, Andromède, Angelopoulos, Antipaxi, Apergis, Aphrodite, Apollon, Arachova, Arcadie, Aéropolis, Arès, Argolide, Argos, Ariane, Aristomène, Aristophane, Aristote, Arnéa, Arta, Artémis, Asclépios, Ataturk, Athanase, Athéna, Athénagoras Ier, Athènes, Athos, Atrée, Atride, Attique et Auguste.
Yanis Ritsos, Grécité. Ces arbres ne peuvent se rassasier de moins de ciel. Ces pierres ne peuvent se rassasier sous les pas étrangers. Et les hommes ne peuvent se rassasier que de soleil. Et ces cœurs ne peuvent se rassasier que de justice. Ce pays est aussi dur que le silence. Il serre contre son sein ses dalles embrasées, il serre dans la lumière ses vignes et ses olives orphelines, il serre les dents. Il n'y a pas d'eau, seulement de la lumière. Le chemin se perd dans la lumière. Métal est l'ombre de l'enclos. Ces arbres sont devenus pierres et les rivières et les cris dans la chaux du soleil. La racine se heurte au marbre, chaînes empoussiérées. Ce mulet, ce rocher, haletant, il n'y a pas d'eau. Tous ont soif, depuis des années, tous mâchent une bouchée de ciel au-dessus de leur amertume. Leurs yeux sont rouges à force de veiller. Une ride profonde gîte entre leurs sourcils comme entre deux collines au crépuscule. Un fin cyprès, leur main est rivée au fusil. Leur fusil prolonge leur main prolonge leur âme. Sur leurs lèvres habite la colère et le chagrin, lui, au fond de leurs yeux, comme une étoile au fond d'un creux de sel.
De Laurent Gaspard, Égée. Le chemin enlacé qui longe la côte au sud-est de Scala est découpé dans le flanc de hautes falaises qui descendent, hostiles, dans la mer. Au crépuscule, tournant le dos au soleil couché, j'aime marcher à l'ombre mûrissante des granites, vers le ciel d'Orient qui fonce. Soudain, derrière une masse sombre, s'allume dans un virage le sein gauche d'une chapelle. Sa blancheur irradie, pudeur égarée dans le rauque, le raboteux. Pendant que lentement elle se consume, s'épuise, pendant que les pieds trébuchent et que la langue balbutie, cette eau limpide, si proche et si incompréhensible, dans le visage qui avance vers la nuit. Sur cette digue qui ne contient plus la tempête ni la marée de l'indifférence, sur ce brise-lames qu'ont déserté les prêtres et les philosophes, un pêcheur raccommode son filet et chantonne. À Patmos, comme partout où il a existé une tradition d'architecture populaire, la tristesse, la monotonie, la laideur agressive des maisons neuves, bâties par des Grecs qui se sont enrichis en Amérique ou par ceux que le tourisme commence à engraisser. Face à la simplicité immédiate des vieilles maisons rythmées par la croissance organique des éléments de base selon les besoins de la famille, surgissent les fausses colonnes, les fioritures. Le patio intime est remplacé par la terrasse sur rue. L'imprévu des volumes, des solutions architecturales troquées contre l'anonymat et la répétition du prêt-à-porter. Eschatologie à notre mesure.
Nikos Kazantzakis, le golfe de Corinthe. Apaisant, inépuisable est le charme du golfe de Corinthe. Une joie profonde des yeux. À gauche, le pin, l'olivier, la vigne, la terre jaune, les pierres roussies par le soleil. À droite, la mer scintillante, éternellement renouvelée, insouciante, gaie, sans mémoire. Comment conserverait-elle Comment se rappellerait-elle tous les sillons qu'ont creusés sur sa poitrine les proues anciennes? Elle serait couverte de rides. Au loin, les montagnes bleues ondulent et fument dans la lumière. Comme des athlètes nus, elles se chauffent au soleil. On ne se lasse jamais de contempler ce spectacle. Le paysage grec agit sur l'homme, sur son âme, son corps, ses plus secrètes pensées, comme une musique. Chaque fois qu'on le retrouve, on le sent plus profondément, on se soumet plus humblement à son rythme, on trouve de nouveaux éléments d'équilibre et de liberté. Je regarde les cimes paisibles et lointaines, la mer, les arbres lumineux aux feuilles espacées. Le lendemain, dès le matin, je me promène dans la ville Agion, parcourant avec avidité les rues tortueuses. Je monte les marches qui conduisent à la forteresse. Sauvage, abandonnée, elle dresse ses tours en ruine, conquise par les herbes odorantes, le caprier, la menthe, la sarriette. Jadis, cette citadelle fut attaquée par les Romains, les Sarrasins, les Slaves, les Francs, puis les Turcs. Maintenant, tous ces mortels ont disparu, tandis que demeurent les occupants légitimes, le caprier, la menthe et la sarriette. Pour construire le mur nord, on a employé des fragments de colonnes antiques. Ici, en effet, sur cette acropole se trouvait, il y a des milliers d'années, un temple d'Artémis, à qui l'on offrait du gibier et des fruits. La ville s'étend en bas, verdoyante, traversée de grandes rues droites qui vont jusqu'à la mer. C'est une journée douce d'automne. Le ciel est légèrement couvert. Ce matin, il a plu un peu. Les feuilles des arbres commencent à roussir. Quelques grappes de raisins aux grains oblongs pendent encore aux ceps.
L'été grec. À mon côté, un gosse énorme, de 16 ou 17 ans, fils de vacancier de Patras, se ronge les ongles avec frénésie en s'empiffrant de pistaches. Figure déjà empâtée, gestes empotés, yeux perdus dans la graisse des joues, stupide, capricieux, nourri selon toute évidence de nouilles, de moussaka, de pastitio et d'autres étouffes chrétiens et étouffes musulmans qui fabriquent depuis des siècles la graisse des Grecs sédentaires. En face de lui, sa mère, matrone informe, gavée, elle de kadaïf, de baklavas, de galactoburico, d'amygdalotès, de toutes ces sucreries qui contribuent à fabriquer les beautés plantureuses encore en vogue en ce pays. De ces monstres voraces et boudinés, image plutôt classique de la petite bourgeoisie grecque, dont tous les chromosomes doivent contenir des gènes eux-mêmes obèses à force d'être gavés comme des oies humaines, sortent des voix fluettes, inattendue. Je me dis que si on les prenait tous deux, mère et fils, pour les presser et les coller ensemble, ils reconstitueraient à merveille ces boules androgynes à quatre bras et quatre jambes que Platon imagine à l'origine du monde. On comprend là comment se crée, comment se forme ce couple insécable qu'est en Grèce une mère et son fils, qu'aucune opération chirurgicale, comme celle que préconise Socrate dans le Banquet, ne pourra jamais séparer. À vrai dire, je ne crois pas qu'il en était ainsi dans les temps antiques, la famille n'y jouant pas le rôle qu'elle joue depuis. L'épouse et mère n'y étaient pas toujours seules au foyer, le père ayant souvent à demeure une concubine, pour les soins de tous les jours, comme le dit Apollodore. Et aussi parce que l'enfant était vite arraché à l'emprise familiale, soumis très tôt à l'influence de la cité, de l'éducation collective. C'est le christianisme qui, là encore, en faisant du mariage un sacrement indissoluble, a créé le monstre social de la famille. Monstruosité que l'homme grec ne fit qu'accentuer, en reléguant la femme aux tâches du foyer et en passant lui-même le plus clair de son temps hors de chez lui. Là réside finalement la véritable horreur de tout inceste. En cette tradition qui d'un côté voit mère et fils à vivre ensemble dans un foyer d'où le père est toujours absent et que par ailleurs on ne puisse jamais choisir sa mère. Quelle beauté peut bien revêtir l'inceste lorsque la mère est comme la chose hideuse et repoussante qui, en face de moi, en ce café de Peristera, couve des yeux son fils et l'encourage dans ses manies. Quitte à rajeunir les vieux mythes, imaginons alors l'histoire d'Œdipe transposée dans la Grèce moderne. Une Jocaste obèse et monstrueuse, gavée de baklavas, bichonnant un Œdipe hébété en train de se ronger les ongles. Telle fut ce soir-là, après les chants magiques d'Angeliki, la revigorante image édipienne que m'offrit ce café villageois. Une mère abusive et frustrée, un père inexistant et sans doute impuissant, et entre eux, un enfant, éternel refoulé et futur abruti, bref, le typique trio de la petite bourgeoisie grecque.
Des keftedes. Ces boulettes de viande peuvent soit accompagner agréablement l'apéritif, soit être servies comme plat de résistance. Ingrédients pour 4 à 6 personnes, préparation 15 minutes. 4 biscottes, 500 g de steak haché, sel et poivre, 1 œuf, une gousse d'ail, persil, thym, 50 g de farine, 1 décilitre d'huile. Concasser les biscottes. Puis les humecter avec un peu d'eau. Laissez reposer environ 30 minutes. Ajoutez la viande. Salez et poivrez. Mélangez avec l'œuf entier, l'ail, le persil et le thym jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Formez avec cette pâte de petites boulettes que l'on farine puis que l'on aplatit à la main. Dans l'huile, faire cuire les galettes obtenues, 5 minutes de chaque côté. Servir chaud ou froid à sa convenance.
Roland Barthes, Délos. Personne n'habite plus cet îlot. Il n'y a plus qu'une auberge basse où l'on vend des toiles brodées et des petits objets en bois. On y déjeune d'œufs durs, de poissons, de piments et d'olives salées. La limonade rafraîchit dans un puits de l'île. Si l'on monte sur le Sainte, bosse rocailleuse large et haute comme Montmartre, on peut suivre des yeux tous les contours de l'île. Entre ces deux lagunes, qui du haut paraissent minces, à peine moins qu'un jeu d'enfant sur le sable, était le port sacré. Entre les deux autres, le port marchand. Et ce rocher tout près, que je pourrais atteindre en jouant à nager un peu? Non, ce n'est plus Délos, c'est déjà une autre île qui a son nom, son passé et d'autres cultes. Mais sèche, rabougrie, déserte, Délos en impose. Me voici arrêté presque au sommet du Sainte, sur la mosaïque d'une villa romaine. Les regards s'élèvent, l'île s'agrandit. On la voit devenir le centre d'un cirque des Cyclades qui se dénombre autour d'elle comme des liens bleus. Naxos, Paros, Andros, Tinos. Cette succession ordonnée de lumière et d'horizons plus solides me symbolise les noces de la terre et de l'eau, nulle part plus somptueuse qu'ici. L'île est le centre d'un embrasement solaire. Le soleil insiste, il épaissit le sang, il entre par les yeux, par les oreilles. On l'entend, c'est un silence térébrant. Puis il dilue, allège, aspire. Il attache à chaque vague une épée de flamme. Délos est une île magique où se croisent des étincellements. Elle devient peu à peu miroir. Miroir de quoi? Peu importe. Les miroirs ont une beauté surnaturelle. Ils ne connaissent pas ce qu'ils reflètent et ils ne reflètent pas toujours ce qu'ils voient. Le miracle de cet embrasement, c'est sa fraîcheur. C'est de la lumière à l'état pur, sans presque de chaleur. Il est certain que là-haut, on est initié à quelque chose que l'on prend pour la graisse et qui n'est peut-être que le feu. Il faut gravir le Sainte à midi, à l'heure la plus perpendiculaire, l'heure droite et profonde, où la flamme solaire va au cœur des terres, au fond des poitrines, et trace sur les yeux comme un signe une blessure de feu, sèche comme une blessure d'amour. Or, Délos même est l'heure méridienne de la plus méridienne des terres. C'est le suc, l'esprit, l'alcool, le feu d'un monde. Il suffit d'une certaine conjonction du soleil, de l'eau et de la terre pour sentir cela.
Το στοματάκι σου, Ρίτα μου.
Όπα, όπλε. Γεια σου, Σαλονίκη μου.
X, Y, Z. Xenakis, Yanis. Xerxès, Zagora, Zatuna, Zénon, Zeus, Ezorba le grec.
Ce carnet de voyage vous a été présenté par
Dominique
et Paul.
Όταν
σουρίτα μου, γεια σου μανίτσα μου.
Αμάν, είναι καημός μεγάλος με δέντρα και λουλές.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez